La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
Marc Boilard, bonjour.
Salut à vous.
Comment vas-tu?
Très, très bien. Très beau week-end.
Oui, dans la zone orange également.
Oui, absolument.
Oui, on est maintenant...
Mais ça ne fait pas de différence pour le moment.
Ben pour ceux qui... Ben un peu comme on s'est dit en fin de semaine, hein, si tu suivais déjà comme faut les règles, le fait de passer en zone orange, compte tenu qu'ils n'ont rien fermé de plus, qu'ils nous demandent juste de faire plus attention, continuer à respirer, là, c'est ceux qui avaient relâché un peu, à qui on va demander de serrer la vis un petit peu, puis de monter la garde, c'est tout.
C'est tout.
Tu veux me parler du vaccin?
Ben, c'est juste que, tu sais, évidemment, genre, moi, ça me tente pas, c'est pas mon sujet d'embarquer ceux qui adhèrent à l'idée du vaccin ou adhèrent pas, mais je me suis posé une question en fin de semaine.
Oui.
J'ai fait, comment ça se fait qu'il y a juste des gens qui trouvent qu'il y a peut-être des affaires bizarres qu'on insère, puis toute une espèce de monde weird autour de l'idée du vaccin, et que t'as pas ça autour des aspirines?
Non, ça, c'est juste le vaccin.
Comment ça se fait? Pourquoi il y a, pourquoi sur Internet... Quand je fais recherche complot médicaments, je vois rien qui dit que dans certaines marques de suppositoires, on envoie un signal satellite aux Russes. Comprends-tu? Pourquoi c'est juste les vaccins qui sont aux prises avec ça?
Pourquoi il n'y a jamais personne qui a pensé à mettre une puce dans le Tylenol?
Ouais, puis, pour, puis je veux dire,
bon, on va le faire. On vient d'avoir l'idée.
Non, mais je veux dire, ça va dans le corps, oui ou non?
Puis la quantité qu'on prend, on va dire, on serait pas mal contrôlé au moment où on se parle.
Mais oui, au lieu de prendre le vaccin, il aurait été bien mieux d'y aller avec l'aspirine. Puis
on en prend tout le temps. Ben oui.
Je comprends pas, pour vrai, je suis très honnête. C'est comme, alors, je me suis posé la question et voici, j'ai une vraie réponse.
Hein?
Okay. J'ai une vraie réponse, puis j'ai une hypothèse.
Ah, on y va.
L'hypothèse, c'est la suivante. C'est que contrairement aux médicaments qui, je vous le rappelle, même si vous le savez déjà, c'est des choses qu'on ingurgite et qui vont dans le corps et dans le sang, la même affaire, les vaccins ont rapport aussi avec le monde hospitalier. Ont rapport avec les médecins, les scientifiques, l'hôpital, donc le gouvernement. Alors que tout ce qui s'appelle le pharmaceutique, c'est privé dans la tête du monde, tu comprends? Ça fait que tu peux avoir plus de monde impliqué, dont le gouvernement, ce qui fait qu'on associe le vaccin à quelque chose qui pourrait être plus douteux dans sa source et dans ce qu'on pourrait y mettre ou blablabla, toute forme de complot. Et puis
parce
que
souvent, c'est le gouvernement qui fait des opérations de vaccination, puis on demande à la population, alors que c'est rare que le gouvernement dise « prenez tout de l'aspirine ». Alors là, on s'est attaqué surtout à ça.
Bon. Mais la vraie réponse, une vraie réponse que j'invente pas, c'est que intrinsèquement chez l'être humain, il y a à quelque part à différents degrés la peur des aiguilles. Ça fait partie des peurs naturelles.
Quand on voit un rôle?
Littéralement, quand on voit une seringue, quand on voit une aiguille, c'est rare que tu entends quelqu'un qui dit j'ai peur des aspirines. Il y a des gens qui vont dire je prends pas de médicaments, etc. Non, mais c'est vrai.
Non, t'as raison.
Mais qui va faire comme ah, moi j'ai une peur des aspirines, c'est épouvantable, tu sais.
Peur bleue.
Vous n'entendez jamais ça.
Vous souvenez-vous de la scène dans Décadence 2, le film dans Décadence 2, quand à un moment donné la fille doit fouiller dans une espèce de bassine pleine de seringues, puis elle se pique de partout là. Une des scènes les plus horribles de l'histoire.
Tu trouves que c'est ça la scène la plus horrible?
Ben moi personnellement, je trouve ça épouvantable.
Ben oui,
les aiguilles, c'est ça.
Là,
c'est horrible.
Puis si ça avait été un baril plein d'Advil, ça aurait pas été une grosse scène d'horreur.
On n'en parlerait même pas.
C'est quand même, il pourrait y avoir pareil des trucs insérés dedans. Et pour vous montrer à quel point je rêve pas, saviez-vous que dans l'imaginaire humain, partout, peu importe les cultures, il y a des objets, il y a des choses vivantes ou inertes qui sont des peurs ou qui évoquent la même affaire que vous soyez au Pérou ou en Inde. Exemple, le serpent. Le serpent, c'est la chose qui fait sursauter le plus un être humain. On a ça dans l'ADN, la peur des serpents. C'est unique. Et dans les rêves, les trains et l'évocation de quelqu'un qui meurt, ça a la même signification partout. Que si tu rêves à quelqu'un qui meurt, c'est quelque chose qui te traumatise dans ton quotidien, etc. T'as peur qu'un de tes projets ou blablabla, t'es dans une peur de quelque chose. C'est unique. Alors, la seringue a cet effet-là aussi.
Donc, là, tu viens de m'aider parce que je viens de conclure une entrevue avec Alain Vadeboncœur. Puis, lui, il essaie de jaser un peu à ce qu'on peut appeler les conspirationnistes. Il y en a là-dedans, selon lui, qui sont parlables. Tu peux en arriver à un terrain d'entente, essayer de les convaincre, de faire attention que la COVID, ça peut vraiment être dangereux. Mais en même temps, il nous disait, pour ceux vraiment qui sont dans la 5G puis les complots de Bill Gates et les vaccins, peut-être qu'eux autres, il n'y a rien à faire. Avec ce que tu viens de nous dire là, on pourrait même essayer de convaincre ces gens-là, les anti-vaccins et autres. écoute bien, en disant ceci, ça fera pas mal, l'aiguille, elle fera pas mal. Arrête, arrête, un petit peu heureux, c'est juste une petite aiguille. Voyons donc, pleure pas, pleure pas.
Je suis pas sûr que ça va marcher.
Non, mais si ta théorie est bonne, non, mais c'est juste parce qu'ils ont peur de l'aiguille.
Non, c'est pas juste peur de l'aiguille. Non, mais ça leur inconscient. Ils sont plus sensibles, voilà.
Il y a peut-être de quoi dans leur inconscient qui les amène à être des théoriciens du complot ou des vaccins, c'est-à-dire la peur de l'aiguille.
Mais il y a une hypothèse au 25226, Marc, pourquoi ton idée n'a pas été mise en application, ou qui pourrait expliquer pourquoi l'aspirine n'a pas été considérée pour insérer de micropuce. Alex nous dit, la micropuce ingérée dans le Tylenol, elle va pas rentrer dans la circulation de ton corps et va éventuellement être excrétée, en fait. Là. Alors que l'injection, le vaccin, fait en sorte que la puce va rester dans ton muscle, ne va jamais être éjectée par ton système. Il dit, en passant, je ne suis pas un complotiste, je suis juste l'avocat du diable.
Ouais, parce que de toute façon, il n'y en a pas de puce, fait que c'est un débat un peu stérile. Là.
Oui, mais mettons qu'il y en avait une. Ça pourrait être
non, mais
ça.
Ben, écoute, je veux dire, tant mieux si c'est un expert de la chose. Là, jusque-là, je ne suis pas convaincu. Puis de l'autre côté, c'est qu'il reste qu'à la rigueur, je vous dirais, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est pourquoi tout à coup les vaccins ont reçu tant d'attention sur ce qu'ils pourraient transporter alors qu'on mange des choses à journée longue sans se poser la question. Parce que sinon, faudrait douter quand on va au restaurant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon plat? Pensez-y si on n'avait pas une confiance par défaut. La vie serait invivable. Ouais, ce serait invivable.
C'est vrai que là, on anticipe, puis certains gens paranoïent à propos de ce qu'ils vont mettre dans le vaccin. Mais quand vous mangez de quoi, là, qui prend la peine de vraiment lire sur le bocal toutes les informations sur ce qu'ils mettent dans le produit?
Personne.
Sylvain, restons dans le pharmaceutique. Comment ça se fait que personne se pose la question sur un nouveau médicament qui arrive sur ces tablettes? Parce qu'on sait qu'il existe un organisme qui s'appelle Santé Canada, qui doit approuver tout ce qui se vend sous ordonnance ou pas. Puis c'est tout, c'est de même. Il n'y a personne qui remet ça en question. Et tout à coup, pour toutes sortes de raisons qu'on parle depuis tantôt, il y a un accessoire qui s'appelle un vaccin qui, lui, c'est comme, non, là, on arrête, ça marche plus qu'il y ait une surveillance qui est faite par le gouvernement, etc. Et je veux rajouter un truc pour finir ce point-là. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un article que j'ai lu dans Le Monde que je trouve qui est extrêmement intéressant. Il y a quelque chose qui s'est passé sous nos yeux, peut-être pour la première fois, dans le monde scientifique depuis les 6 derniers mois. Ouais. Oui. Qu'on se rend pas compte, mais qui explique beaucoup de choses. C'est que depuis 6 mois, la science avance sous nos yeux et non pas les conclusions de la science. En voulant dire que, justement, gardons l'exemple des pilules. Quand tout à coup, là, on se fait dire, hey, va chercher de l'ibuprofène à pharmacie. Puis là, tu vois Advil, puis tu vois personnel chez Jean Couteux, puis tu dis, ah, c'est un peu la même affaire. Je regarde, c'est exactement les mêmes ingrédients, mais il y en a un, c'est pas Advil, puis l'autre, c'est la marque maison, etc. C'est tout fin de l'histoire. Mais penses-tu vraiment que, à un moment donné, il y a quelqu'un dans la compagnie en question qui s'est réveillé en disant, hey, on devrait faire une affaire qui donne plus mal à la tête, puis le lendemain, c'est réglé? Non. Ça part en recherche. Il y en a deux qui se pognent. Il y a un des deux scientifiques qui démissionnent en disant c'est pas ça la vraie affaire. Tout ça, on n'est pas au courant, Sylvain.
Ouais.
Comme quand on monte un spectacle. Ouais, vous autres, vous allez à la première d'un show, vous trouvez ça drôle.
Ouais.
Ah, il est bon, le dernier show à Morancy, c'est vraiment bon. T'as pas vu, moi, quand j'étais avec en arrière à Magog, puis qu'on se pognait en disant ce joke-là, ça marche pas. Oui, ça marche, le monde en rit. Personne voit ça. On voit toujours juste les conclusions de tout.
Si on avait vu tout ça, pour reprendre ton exemple, pour le show de Morancy, là, les gens auraient peut-être été inquiets. Ça a l'air qu'il sera pas bon, le show à Morancy.
Exactement.
Comment ça? Parce que moi, j'ai vu que l'autre jour, avec Boilard, il avait l'air
s'assister
sur une joke. Puis moi, je pense que le show à Morancy sera pas bon. Ben, voilà. Moi, je pense qu'il va être bon parce que moi... Mais effectivement, on va voir le show puis on juge. Là, on a effectivement tout le processus, que ce soit pour le vaccin, que ce soit pour certaines mesures sanitaires. Et de temps en temps, ils se plantent. Tu sais, tantôt, on parlait de l'histoire de changer de trottoir quand on se croise dans la rue dehors. Là. On s'entend qu'aujourd'hui, on peut le dire que ça, c'était un peu exagéré. Mais à l'époque, quand ils ont dit de faire ça, ils ne sont pas levés un matin en disant « Hey, on va s'amuser avec le monde, on va faire changer de trottoir, mais on va tellement rire, maudit qu'on va rire. On va être en haut de l'édifice, on va être en hélicoptère, on va regarder, mais check. » Je pense qu'ils pensaient que c'était bon pour nous autres. Ah, ils ont commis une erreur, preuve qu'ils ne sont pas parfaits, mais effectivement,
pas,
en fait, on l'a...
Ils étaient juste plus prudents, c'est tout. Là.
Ouais, c'est
vrai que ça dire leur que donne... C'est toute la surmédiatisation, parce qu'il y a un sujet depuis 6 mois, ça fait en sorte qu'il y en a un qui dit non, l'autre arrive, non, moi je dis B, puis là on fait, mon Dieu, mais ce sont des scientifiques entre eux autres. Mais oui, c'est le propre de tout ce qui se développe, d'avoir des gens qui sont pour, qui sont contre, etc. C'est pas tout le temps Newton qui reçoit une pomme puis qui se dit tiens la gravité. Oh. C'est pas toujours aussi banal que ça. Il y a tout le... Non mais tu comprends?
Ben probablement c'est... que Advil puis Tylenol puis aspirine c'est pas tombé d'un arbre là. Probablement yes. qu'avant d'arriver à ça là, ils ont dû se pogner. Il y a des scientifiques qui ont dû dire moi je pense que ça va être dangereux. Non ça le sera pas. Il y a quand même des effets secondaires. Oh, pas tant que ça. Puis là ils ont mais on a, Marc a raison, on n'a pas assisté à ça, on n'a pas commenté ça, parce qu'on connaît rien.
On
est
arrivé au produit final.
Ouais, à un moment donné, voilà. Ils ont arrivé avec les Tylenol. Moi, en passant, quand j'étais jeune, les Tylenol, ils n'avaient pas beaucoup. Là. C'était plus aspirine. Hein. Moi, je suis de la génération que...
Moi aussi.
Hein, nos parents, mal à la tête, tout, aspirine. Ah ouais? Ouais. À un moment donné, Advil, puis Tylenol est arrivé, puis il y en a qui ont dit, ça, c'est mieux. Si tu prends une brosse, c'est mieux Advil, en passant.
Ah ouais?
Oui, pour le lendemain de brosse, c'est Advil.
Ibuprofène, donc, pour acétaminophène.
Okay. Le Tylenol, c'est vraiment plus mal de tête. En tout cas, bon, chacun a à ses qualités, mais on n'a pas vu le processus.
C'est vrai.
Là, on assiste à tout en direct.
À tout.
Comme tu le dis souvent, Sylvain, les questions sont bonnes, par contre, parce que c'est pas vrai qu'il faut dire, ah, dès que le vaccin arrive, ça va être bon nécessairement. On nous fait remarquer au 25-2-6, c'est tout à fait vrai, le vaccin contre la poliomyélite, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés avec certains vaccins, des fois.
C'est tout vrai,
donc,
ça.
Faut poser des questions, faut pas être pressé, puis c'est correct de les poser, mais faut pas commencer à trouver des réponses toutes faites sur le web.
Il y avait un scandale aussi sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour les femmes. C'était quand j'étais ado, ça, que ce vaccin-là est arrivé, ou la mode, en fait, de faire vacciner les jeunes filles est arrivée. Puis je me souviens qu'il y avait un paquet de parents qui étaient sortis dans les médias pour dire que leur fille avait eu des effets secondaires pas possibles à cause de ce vaccin-là. Ça avait créé une peur chez le monde pour le vaccin, mais c'était quand même un vaccin qui est important. Là,
je rejoins Jean-Simon à 100%. Parlez-en à Martin Deschamps puis toutes les autres qui ont été atteints de ça. Là, sa mère a dû prendre le fameux médicament
pour
diminuer la nausée chez les femmes enceintes. Ça a été une catastrophe. Lui. C'est dans les années 70, il y a beaucoup de femmes au Québec qui ont pris ce médicament-là anti-nausée de femmes enceintes. Mais Jean-Simon bien résumé. Poser des questions, c'est correct, mais on vit à l'ère de Facebook, la modestie, l'humilité, juste poser une question, la prudence, c'est pas payant. Si tu veux des likes puis des clics, faut que tu donnes la réponse, puis si possible, en caps lock puis en gros. Fait que, le vaccin est-il dangereux? Oui, il l'est clairement! Puis c'est Bill Gates. T'sais, donne la réponse. Même si t'es pas docteur, même si t'es pas expert, donne-la. Parce que...
T'as des sources qui ont trouvé la réponse, puis faut que tu les donnes.
Oui, malheureusement. Et on parle-tu de TV un peu?
Oui.
C'est un bon sujet. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la TV, c'est tout le temps la même face? Est-ce que c'est parce que le marché du Québec est petit? On a parlé de Rémi Girard la semaine dernière, nous autres, qu'il est rendu dans le district 31. Oui. Honnêtement, si quelqu'un est allergique à Rémi Girard, il faut qu'il mette un avertissement dans les émissions. Ce produit ne contient aucune trace de Rémi Girard. Il n'y en a pas beaucoup! Parce que, heureusement, c'est pas que vous n'êtes pas allergique. Et là, Marc, tu as constaté notamment que c'est le cas de Pierre-Luc Fong de plus en plus qu'on voit sur les trois réseaux.
C'est vrai, t'as raison.
Alors, tu veux me parler de ça? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Ce que je veux juste expliquer, puis c'est pas moi qui l'invente, là. Je veux dire, je fais juste vous dire des affaires qu'on lit, puis blablabla, puis ça fait partie de la donne humaine, c'est que c'est pareil partout. On entend souvent, on voit les mêmes à TV. Savez-vous quoi? On voit les mêmes dans les tours à bureau. On voit les mêmes dans la direction des entreprises. On voit le même VP qui est à une place qui devient VP à l'autre. On se demande des fois, coudonc, il était pas bon à une place, comment il va-tu être bon à l'autre? Non, mais pour vrai, c'est extrêmement fréquent. Puis moi, j'appelle ça la théorie à une distance de bras. C'est-à-dire que quand tu as besoin de combler un poste, la plupart des gens qui embauchent dans toutes les industries, je te le dis, là...
Pas juste la TV, là. Pas juste la TV, d'un bureau, d'un entreprise.
Alors, j'invite tout le monde qui nous écoute à penser aux boss... Puis s'ils sont eux-mêmes boss, comment s'est passé le processus d'embauche?
C'est souvent tout le temps même. C'est vrai que c'est un peu tout le temps même qui roule d'une place à l'autre, comme dans le domaine artistique, d'une station de télé à l'autre. Dans d'autres domaines, c'est pareil aussi.
C'est que la théorie à une distance de bras a dit que habituellement le vrai processus d'embauche, c'est la main droite devant les yeux, on étire le bras gauche et le premier qu'on touche, c'est lui qui est embauché.
T'es en train de nous dire que c'est pas le talent, la compétence, les performances?
Non. C'est-à-dire que si...
Sinon, le monde irait vraiment mal. Là.
Non, mais t'as raison, Sylvain. Ce que je veux dire, c'est que pour être précis, c'est que si t'as pas les compétences, tu feras pas partie des options.
OK.
Mais à partir du moment où tu peux faire la job, c'est pas vrai que c'est toujours le meilleur qui est embauché. Parce que la télé nous le démontre. C'est pas unique à la télé. La télé nous le démontre. On prend le même monde. On le connaît.
Exact.
C'est hallucinant comment c'est le même. Et quand un Pierre-Luc Fong que tu dis, il est partout, comment il a fait d'abord pour devenir dans cette gang-là, c'est qu'il y a des gens qui ont considéré qu'il était déjà dans ce cercle-là pour eux. Dans ce cas-là, c'est des directeurs de casting. Dans le cas d'une compagnie, c'est la fille des ressources humaines qui dit, j'ai travaillé avec lui.
Ouais.
C'est de la familiarité. On peut pas blâmer non plus les gens. On le fait un peu nous autres. mêmes. Mais il reste que quand vous trouvez que c'est toujours les mêmes, dites-vous que c'est partout toujours les mêmes. Puis que quand tu réussis à t'élever à un certain niveau, ton titre est plus important que tes compétences. Ton titre devient plus important que tes compétences.
Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que, mettons, là, qu'on s'adresse à des gens qui sont d'accord avec toi, mais là, oublions, le milieu artistique est quand même assez restreint. Parlons à la majorité des gens, sont dans des bureaux, puis ils s'aperçoivent que c'est toujours les mêmes qui ont les promotions ou qui accèdent à ces postes-là. Comment on fait pour rentrer dans la gang, Marc?
J'ai une mauvaise nouvelle d'abord. On va commencer par la mauvaise nouvelle. C'est que la qualité de vos réalisations ne feront pas la différence.
Oh, ça, c'est plate en maudit, ça.
C'est très plate. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui reconnaît ça, puis il s'agit de savoir c'est qui, puis de s'acoquiner avec. Il faut que tu sois proche des gens qui sont décisionnels.
Il faut faire du réseautage, là, tu sais, le fameux mot à la mode. Là. Il faut,
faut être têteux. Non, mais moi,
autrement dit, il faut être têteux.
C'est ça. Faut non, c'est avec les bonnes personnes.
Ça, c'est la version négative.
Ouais. Ben ouais,
Non, c'est pas négatif. Ben, excuse-moi, si c'est vrai, c'est négatif, moi, je fais pas le même lien, là. Mais moi, je te dis juste que, écoute, j'ai eu ces discussions-là il y a pas longtemps avec une fille qui fait du headhunting. Fanny Larocque, elle a son agence. C'est pas pour rien que je t'invente ça aujourd'hui. J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que c'est vrai qu'habituellement, les gens qui passent, mettons, d'une poste de haute direction vont dans une autre compagnie à titre de DG ou VP, mais que c'est tough de monter? Elle dit, c'est totalement vrai. Elle dit, c'est épouvantable. Puis, écoute, c'est tellement vrai qu'elle m'a dit, quand je dis ça aux compagnies, ils sont tout le temps offusqués. Non, chez nous, c'est pas de même. Puis, ils me donnent un exemple sur les 128 derniers embauches, tu comprends?
Ou sont allés chercher un peu plus loin, là.
C'est ça.
Vraiment, ils ont fait un genre de concours où ils ont regardé vraiment les habiletés, compétences ou CV. Reste du temps, ils vont piger dans le même lac.
C'est
si t'es pas dans le lac...
Voilà. Puis combien de fois tu penses que t'as dit quelque chose à quelqu'un dans ton équipe, que ce soit boss ou collègue ou autre, puis qui ont fait comme ordinaire, mais quelqu'un de l'extérieur, qui est pas dans ton cercle direct, a dit la même affaire, puis là c'est comme « Ah ben tabarouette, ça c'est bon. » Ça arrive tout le temps, mon vieux. Parce que ce qui vient un peu de l'extérieur a comme une espèce de neutralité, on arrive avec un chapeau d'expert ou peu importe, tu comprends?
Ouais.
Ça fait que c'est tout le temps de même. C'est qu'à la télé, prendre Rémi Girard, comme tu dis, c'est sécurisant pour qui, tu penses? Pour l'auditoire? Non! C'est sécurisant pour le producteur, pour le réalisateur, c'est sécurisant pour les gens qui font le travail.
Toi et moi, on invente un jeu questionnaire, puis soudainement, on dit « Hey, Patrice Lécuyer, hein, d'après moi, ça... »
Exactement.
Non, ou Alexandre Barrette, c'est un petit peu plus jeune.
Alors, il y a deux options. Ça explique actuellement, tu veux un jeune acteur, tout ça branché, tout ça, Pierre-Luc Funk, ça sort. C'est le nom qui sort actuellement dans le domaine. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, là, c'est pas ça qu'on dit. Mais les autres qui sont bons, mais qui s'appellent pas Pierre-Luc Funk, faites la file.
Mais ce que je trouve dommage, Marc, c'est que de plus en plus, puis on le remarque même dans les médias traditionnels, même ici chez Cogeco, là, je veux dire, on est un petit peu coupable de ça, de plus en plus, les médias cherchent à avoir des gens qui ont déjà une notoriété pour les shows. Mais ça fait en sorte, Marc, comment qu'on fait aujourd'hui? Un jeune là, qui est au secondaire présentement, puis lui, son rêve, c'est d'être animateur de radio ou de télé. Il faut bien que quelqu'un lui donne une première chance lui bâtir sa notoriété avant qu'il y en ait une, tu comprends? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, garde, on te connaît pas, personne au Québec te connaît, mais je vais prendre une chance avec toi, puis éventuellement, tu vas en avoir une notoriété. Parce que présentement, il n'y a pas beaucoup de relève. Tu vois pas quelqu'un animer un show présentement qu'on connaît pas déjà, tu comprends? On n'a pas connu des gens animer un show. On les connaît déjà, puis on leur a donné ce contrat-là, par exemple. Mais ça rend la chose un petit peu difficile, je trouve, pour la relève, moi.
Oui, mais ça rend la chose difficile aussi pour les stations. Moi, je vais juste te souligner une affaire. Dans les années d'André Arthur, c'était 100 000 au quart d'heure. Après ça, ça a descendu il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Quand moi, j'ai commencé à Québec avec Martin Dallaire et tout ça, on était à... Vois-tu, on faisait des pointes à 33, 34, puis il y en a qui faisaient 50. Puis aujourd'hui, à 25, on sort le champagne.
Il y a plus de stations aussi, par exemple. Faire attention.
Oui.
Il y a beaucoup
plus
de stations qu'avant. Fait que là,
je comprends.
L'auditoire s'est divisé aussi, là.
Oui, mais il y a diminué aussi. Ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, coudonc, à force de toujours regarder dans le rétroviseur quand on choisit, puis qu'on fait pas ce qu'Élisabeth dit, c'est-à-dire, ça se peut-tu qu'il y ait? Puis moi, je trouve qu'au FM 93, il y en a des jeunes crinqués qui sont top. Ils sont tous là. Je travaille avec eux autres. Maintenant, je trippe comme un malade. Pourquoi? Parce que moi, j'y crois, ça. Ça fait que c'est un heureux mélange. Moi, votre équipe est malade, là. T'as Bouchard Diouf qui est là, ça fait 10 ans, on sait c'est qui.
C'est moi.
Puis t'as... Mais c'est ça la bonne formule.
Mais on l'a un peu... Quand on parlait des quiz, là, je sais que c'est facile de dire, mais même moi, comme on n'est pas patron, on n'est pas décisionnel. Hein, ouais, ça prend de la relève, ça prend des nouveaux visages, que ce soit à la télé, en radio ou dans l'entreprise. Mettons que vous travaillez, vous avez le goût d'avoir des nouveaux dirigeants, mais de plus en plus, il faut performer, il faut rendre des comptes aux 3 mois, aux 6 mois, aux actionnaires. Il y a de là, tout le monde qui travaille dans tous les milieux me dit, Sylvain, on a plus de pression un peu. Fait que quand t'as de la pression, tu deviens moins risqueux, là. Tu deviens moins...
Ça, c'est extrêmement vrai.
Tu vas arriver, on vit dans une société où aujourd'hui, beaucoup de gestionnaires, ils vont vers la prudence parce que la pression est forte de donner du rendement aux actionnaires. Donc, on y va vers les valeurs sûres. C'est plate un peu pour la relève et autres, mais on y va vers les valeurs sûres.
Ben ouais. Oui, mais moi, je te répète que ce que je vois, moi, tous les jours à 15 heures, là, cette équipe-là que vous êtes, là, ça répond exactement à ce que mes croyances à moi comme un projet qui va de l'avant. C'est exactement une bonne formule.
Ben non, de temps en temps, il y en a qui prennent des risques un peu. Ben, pas des risques, mais qui s'en vont vers
la
nouveauté.
Non, mais c'est le mélange entre expérience
ou la jeunesse.
Mm-hmm. Voilà.
Ben, ici, au 93, tu le mentionnes un peu, mais on est privilégié. Je pense que tu vas être d'accord d'avoir de l'espace comme ça. Les jeunes, s'il y avait une place qui donne la place aux jeunes, puis je peux en témoigner, c'est bien ici. On a de la glace pour les occasions.
Let's go.
Ben oui, pas toute la gang. On est vraiment privilégié.
Non, mais comparé à d'autres médias, c'est sûr que oui.
Ouais, mais c'est la même. On a la même pression un peu pareil de performance. Puis moi, ça, c'est une des choses, je pense, que dans les milieux de travail, là, on parle d'un phénomène, là, la relève un peu, puis l'accession au poste de direction ou au poste de premier plan. Mais la pression dans tous les milieux de travail, depuis, je dirais, je sais pas, j'ai de la misère à mettre une année, mais tu sais, j'ai connu, là, si je prends juste la radio, mais ça peut s'attendre à d'autres domaines. Là. Les actionnaires sont de plus en plus difficiles, surtout les baby boomers, qui ont pris leur retraite, puis là, je vais les défendre, là, on leur en met beaucoup ses épaules. Les baby boomers se sont fait promettre la liberté 55 avec des taux de rendement de 10 à 15 % de la bourse. Ils ont épargné en fonction de ça. Là, ils sont à la retraite et ça marche pas. Là, ils se rendent compte qu'il y a des vendeurs qui leur ont fait des promesses irréalisables. Et ces gens-là sont extrêmement exigeants. Ils veulent du rendement. Il faut les satisfaire. Et là, ça part de là, puis ça se transporte jusque sur nos épaules à nous autres. Tu sais, la fameuse expression « faire plus avec moins ». Ça a été inventé, à un moment donné, là. Soyez proactifs. Faites plus avec moins. Ça se ressent, là, en termes de stress et d'anxiété sur toute la chaîne de travail.
Oui.
Parce que en haut, puis si les gens pensent, c'est les grands patrons. Arrêtez, les entreprises, là, ça appartient pas à tel individu ou tel individu. C'est des fonds communs de placement. C'est des gros fonds de capital. Ça appartient tout à des retraités en Floride ou ici à Québec ou ailleurs qui, via leur REER ou fonds de pension, sont là-dedans. Et eux exigent du rendement. Puis là, bon, on est pogné avec ça. Donc, un peu plus de prudence de la part des gestionnaires. Merci, Marc.
À prochain.
Prochain débat, 15h33. Au FM 93, vous lirez le livre de... Mais ça, lui qui a 99 francs, mais là, ils l'ont changé, le titre de son livre, parce qu'il n'y a plus de francs. Là, fait que c'est comme un
euro. 33 euros.
Frédéric. Oui, ils l'ont vraiment changé.
Je sais pas c'est combien d'euros.
Là. C'est Frédéric Becbédère. Okay.
Oui,
connaissez?
Oui, absolument.
Frédéric
oui.
Becbédère
oui.
a écrit 99 francs. Je pense que c'était ça le nom de son plus grand best-seller, mais là, il a été... Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui... C'est deux, trois gars dans une agence de pub qui, là, il y a trop de pression, à un moment donné, il débarque, il pète. OK, il pète un fuse. Propose des affaires, ça marche jamais, les boss sont jamais contents, ils ont full pression, ce qu'on a un peu décrit un peu, pas capable de grimper, ils pètent un fuse, mais ils vont à la base. Ils veulent savoir qui rend leur job infernal. Fait que tu sais, ils montent jusqu'au boss de la grosse compagnie de pub à Paris, puis ils montent, là, je veux pas compter le film, parce qu'ils se ramassent en Floride, là, chez les retraités, là. Ils s'aperçoivent que le compagnie, c'est pas le grand boss, c'est des fonds communs de placement en bourse, puis tout ça, puis ces gens-là, ils ont arrêté de travailler à 55 ans, puis mm-hmm. ils ont une grosse maison, un gros char, puis un bateau, puis il faut que l'argent rentre. Fait qu'à chaque fois qu'ils sont pas contents, hey, ah ouais, couper des employés, puis couper, puis il faut que le... Mais c'est vraiment, vraiment un bon livre. Becbédère, le titre...
C'est changé maintenant pour 14,99 francs. Fait que, 14,99 €.
C'est ça, hein?
90, moi,
c'est vraiment exact. Drôle.
Voilà, 15,34.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.